Les deux orphelines, deuxième partie, chapitre 5. La première partie de son programme ayant complètement réussi, Frochard ne doutait pas qu'il en fût de même de la seconde, bien que celle-ci présentât des difficultés bien autrement graves. De retour de la rue Saint-Louis en Lille, il avait trouvé sa femme occupée à indiquer à Jacques et à Pierre ce qu'ils auraient à faire le soir même. Le bandit avait la physionomie résolue et calme, si calme même que sa femme lui demanda s'il n'y avait rien de changé dans la grande entreprise. « Est-ce toujours pour ce soir ? » demanda-t-elle. « Plus que jamais !» Puis, s'apercevant de l'agitation de la femme et après avoir donné un regard au cadran du coucou, « Il n'est encore que 6 heures, mais il faut souper tout de suite et nous mettre en route. Toi, femme, n'oublie pas mes recommandations. À 8 heures précises, soyez chacun à votre poste. Nous y serons, mon homme. » Le souper avait été hâté plus que de coutume. Frochard se leva le premier, se retira dans la petite pièce qui servait de chambre à coucher aux deux enfants et se mit à préparer les habits qu'il comptait emporter. Il plaça dans un grand sac de voyage le costume en velours noir, semblable à celui qui portait la veille le docteur du Rocher. Lorsqu'il reparut, tenant d'une main la valise et portant sur son bras la grande douillette puce, il avait absolument l'air d'un bon père de famille qui va embrasser les siens avant de se mettre en voyage. Mais, intérieurement, le bandit ne pouvait se défendre d'une vive émotion qu'il s'efforçait de dissimuler. Il souleva Jacques à bout de bras jusqu'à la hauteur de sa poitrine et pressa l'enfant sur son cœur. Puis, ce fut le tour de Pierre. Mais celui-ci dut se contenter d'une simple caresse de la main paternelle sur sa joue. Alors vint aussi le tour de la Frochard. « Il faut que je t'embrasse, femme, » lui avait dit son homme. Et, comme pour justifier ce débordement de tendresse, le bandit ajouta, avec une expression à la fois attendrie et cynique, « Ça me donnera du cœur à l'ouvrage. » C'est sur ces odieuses paroles qu'on se sépara. Frochard referma la porte sans bruit et descendit doucement. Il ne se souciait pas d'être rencontré, maintenant, par quelques voisins qui pourraient le retenir à causer. Il esquiva même pour cette fois le boutiquier. Quelques instants après, la femme et les deux enfants du bandit quittaient également la maison, bien qu'ils eussent encore 2 heures à attendre avant de se rendre à l'endroit que leur avait désigné Frochard. Pour tuer le temps, le Frochard conduisit Jacques et Pierre sur le pont Neuf, où il y avait foule devant la parade des bateleurs et des marchands d'Orviétan. Nous avons quitté Frochard au moment où il se mettait à la recherche d'un véhicule pour se rendre auprès de son client. Il s'était dit, en effet, qu'un grand médecin comme l'était M. du Rocher ne devait jamais faire à pied ses visites aux malades. Par mesure de précaution, il avait mis la douillette par-dessus sa veste de domestique, aussitôt qu'il s'était trouvé assez éloigné de sa maison. Le bandit avait, en ce moment qui précédait d'une demi-heure à peine l'accomplissement de son criminel attentat, une liberté d'esprit absolue. On eût dit, à le voir se diriger paisiblement vers la station des chaises à porteurs, qu'il s'agissait pour lui de rendre une simple visite. Dès qu'il parut sur la place, les porteurs s'empressèrent autour de lui. Il se faisait déjà tard et chacun cherchait une aubaine avant la fin de sa journée. Frochard choisit de l'œil la litière la plus spacieuse. Elle avait appartenu probablement à quelques grandes dames portant panier, car 2 personnes auraient pu s'y installer à l'aise. C'était bien l'affaire du malfaiteur qui se proposait, comme on sait, d'y changer de vêtements. Il s'approcha des 2 porteurs. « Mes amis, leur dit-il, j'ai besoin de vos services. Nous sommes aux ordres de monsieur. Où faut-il aller ? Je vous donnerai l'adresse tout à l'heure, mais d'abord, voici mes conditions. » Les porteurs s'inclinèrent. « Je vous paierai 4 écus. »«
Pour une course ? » demanda l'un des porteurs.
« Non, pour 2.
Alors nous attendrons monsieur.
Vous me laisserez à l'adresse que je vais vous indiquer et vous reviendrez m'y prendre 2 heures plus tard.
C'est bien, monsieur, montez. »
Frochard fit passer d'abord sa valise, puis il s'introduisit dans la chaise. Et une fois la portière fermée, « Nous allons rue du Bout du Monde, numéro 14, » dit-il. Et tirant les rideaux, il se mit à changer de costume. Cette opération s'accomplit avec rapidité. Le bandit avait calculé son temps pour arriver à l'heure convenue chez M. Desfrolans. Frochard venait de refermer la valise
dans laquelle il avait placé sa veste et sa culotte de valet de chambre. Instinctivement, il s'assura que la lame de son couteau était bien dans sa gaine, qu'il introduisit dans la poche intérieure de l'habit de velours. Les porteurs, aiguillonnés par la bise, avaient fait diligence. Ils traversaient la rue lorsque, se penchant à la portière, Frochard vit son fils Jacques, qui se tenait à l'encoignure, puis, au milieu de la rue, il aperçut une femme qui s'estompait dans la brume. C'était la Frochard. « Tout le monde est à son poste, » dit-il. « Allons, l'affaire se présente bien. » À ce moment, la chaise s'arrêtait devant la maison de M. Desfrolans. Frochard descendit, et après avoir payé et congédié les porteurs, il frappa à la porte cochère.